Bonjour et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées. Où au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent. Où la relation à soi, avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cet épisode de podcast pour vous parler de mon parcours, de ce que j'ai traversé ces dernières années aussi, d'un point de vue plus personnel, professionnel. Et je vais répondre aussi aux questions qui m'ont été posées sur mes réseaux par les personnes qui me suivent sur, encore une fois, mon parcours, mes études, qu'est-ce qui m'a menée là. Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais jamais pris le temps de vraiment poser les choses sur ce podcast. Je l'ai beaucoup fait dans des articles, dans des newsletters ou sur Instagram. Mais pour celles qui ne me connaissent qu'à travers le podcast, il manquait cette pierre à l'édifice pour vous parler un petit peu plus de qui je suis. Et je vous cache pas que ça fait un an que je procrastine cet épisode de podcast. Il y a eu tellement de choses en fait ces dernières années que je me suis dit mais par quel bout je vais prendre les choses, c'est juste impossible. Et le but c'est vraiment de pouvoir vous permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui m'a amené déjà à créer ce podcast. Qu'est-ce qui m'a amené à ralentir la cadence aussi par rapport à ce podcast-là? Et puis pourquoi j'ai tant à cœur aujourd'hui de refaire ce premier épisode? Parce qu'il y a plein de sujets que j'ai envie de vous sortir et de publier. Mais j'attends en fait de refaire cette présentation en bonne et due forme pour le faire. Donc nous y voilà. Je vais vous faire une intro qui va durer je ne sais combien de temps. Et puis à la fin de cet épisode, je prendrai les questions qui m'ont été posées sur Instagram pour y répondre une à une. Et m'assurer de pouvoir vraiment faire le plus complet en termes de parcours. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que ça a été aussi dur pour moi, en fait, de reprendre le micro, notamment pour vous parler de ce parcours? C'est parce que il a été dense, donc je vais avoir le temps à la fin d'épisode, notamment quand je vais répondre sur mes études, etc., de vous dire un petit peu plus en détail les écoles que j'ai faites, etc. Mais j'ai plutôt commencé à partir du moment où j'ai été thérapeute et que je pratiquais en cabinet. Donc j'avais un cabinet à Genève et Lausanne, ça, quand j'ai lancé le podcast en 2018, je vous le disais déjà. J'ai eu la chance en fait d'avoir des cabinets qui tournent très rapidement, bien, de travailler comme consultante aussi en Suisse. Vraiment mon domaine d'expertise a toujours été la nutrition et je pratiquais en cabinet la nutrition, la naturopathie, la réflexologie et l'aromathérapie, la phyto faisait vraiment partie intégrante en fait de mes accompagnements avec quand même un petit coup de cœur pour l'aroma. Et puis assez rapidement, au bout de quelques années, j'ai senti quelque chose en moi en fait me dire « il y a autre chose à faire ». Il y a autre chose à faire parce que beaucoup de gens venaient me voir avec déjà des pathologies avancées, pour la plupart, ou des problématiques qui dataient depuis longtemps. Et ça mettait beaucoup de temps de passer par cette rééducation nutritionnelle sans laquelle on ne peut pas vraiment réacquérir sa bonne santé. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé au bout d'un certain temps de quitter ces cabinets qui étaient mon rêve pour faire du bénévolat en fait. Ça, c'est vraiment déjà un exemple de à quel point parfois l'élan du cœur est plus fort que tout. Et en fait, j'ai eu cet élan du cœur et il m'a fallu en réalité 8 mois pour me dire « maintenant tu lâches tes cabinets et tu vas faire un podcast ou tu vas faire un compte Instagram pour démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé ». Mais c'est pour vous dire, cet élan était tellement fort que j'ai fait du bénévolat pendant des mois et je savais absolument pas où ça allait me mener. D'ailleurs, pas mal de personnes m'ont dit « tu savais déjà que t'allais faire des formations ?» Mais pas du tout en fait, je me suis juste dit il faut démocratiser, il faut éduquer les gens à la nutrition, il faut que les gens puissent vraiment reprendre leurs responsabilités, mais pour ça, ils ont besoin d'accéder à certaines connaissances, et je vais faire ma part et transmettre ce que moi j'ai appris et ce que j'ai mis en pratique. Donc, ça c'était en 2018, et donc j'ai lancé mes premiers épisodes de podcast, j'ai lancé mon compte Instagram, puis j'ai commencé à partager voilà, ce que j'avais appris jusque-là. Et puis de fil en aiguille, ma communauté, vous aussi mes auditeurs, vous m'avez invité à créer un e-book pour avoir les bases de la nutrition. Puis après cet e-book, j'ai fait les live santé de Lisa, où tous les lundis je répondais à toutes les questions pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur Instagram. Et j'ai commencé à enseigner, à créer l'Académie IG, qui est l'Académie de la Santé Préventive, avec ma formation IG1 pour devenir expert en nutrition préventive, puis toutes les autres qui ont suivi, à savoir IG Soma par rapport au breathwork, à la respiration, à la méditation, puis IG Voice par rapport au yoga de la voix, IG Phyto avec la phytothérapie, les tisanes, les décoctions. Bref, il y a eu tout un panel en fait de formations qui est né, et là il y a eu un switch. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler, parce que jusque-là, je n'ai jamais pu vous parler, en fait, de ce que j'ai vécu pendant ces années-là. C'est-à-dire que quand, le 3 mars 2020, j'ai lancé IG1, ça a eu l'effet d'une tornade dans ma vie, et je n'aurais jamais pensé vivre ce que j'ai vécu depuis. Quand je dis que c'est une tornade qui a été extrêmement positive, évidemment. C'est-à-dire que depuis, on a formé 2000 élèves, rien que pour, même 2400 élèves en fait, rien que pour IG1, il y a 8000 membres dans l'académie qui se forment au sein de IG. Donc moi, forcément, ça m'a propulsée à chef d'entreprise, avec 10 personnes merveilleuses qui travaillent avec moi, qui portent cette mission, qui portent ces valeurs, à devoir me former en business, en outils marketing, outils digitaux, comment mettre sa formation en ligne, comment envoyer des mails, comment envoyer des mails ciblés, enfin bref, vous voyez, tout ce qui peut, à la base, tout ce qui n'est absolument pas dans mes skills, c'est que j'ai dû apprendre sur le tas. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça parce que j'adore apprendre, en fait. J'adore vraiment apprendre au-delà de la santé, de la nutrition. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Dans mon ancienne vie, j'étais aussi manageuse, notamment dans la restauration, donc management, les relations humaines, les ressources humaines, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc je me suis retrouvée plongée là-dedans. Et évidemment, tout ce temps pour ce qui était au départ du bénévolat et la transmission d'informations à travers mon podcast, les réseaux, j'ai tout simplement pas réussi à le tenir par manque de temps et par rapport au boom qu'il y a eu sur IG et à tout ce que ça m'a demandé en implémentation pour à la fois devenir organisme de formation, m'assurer en fait que l'équipe soit bien, qu'on ait les bonnes personnes à la bonne place et qu'on puisse pérenniser aussi surtout en fait cette activité professionnelle, qu'on puisse être à la hauteur par rapport aussi au suivi qu'on faisait pour nos élèves. Et c'est vrai qu'on a fait que améliorer les formations au fur et à mesure et j'ai été extrêmement prise par ça. Et je dois avouer que parallèlement à ça, le peu de temps qui me restait, ça a été un temps où j'ai vraiment commencé à vouloir le prendre pour moi. J'ai eu un déclic au Mexique il y a 2 ans de ça maintenant. Mais en fait, au Mexique, après cette première année et demie de IG, je pensais qu'une semaine de vacances allait me suffire et pas du tout, parce qu'à la fin de ma semaine de vacances, mon corps a littéralement débranché la prise. J'arrivais plus à ouvrir un ordinateur sans avoir des nausées. Mis à part ne rien faire et juste être dans le moment présent, profiter du pays, j'étais incapable, en fait, de produire quoi que ce soit, d'écrire des posts, de faire un podcast. Tout me semblait une montagne. Alors, à ce moment-là, je peux pas dire que c'était un espèce de burn-out, parce que c'était pas ça dans mon corps. J'avais énormément d'énergie, je me sentais bien pour d'autres choses. Mais dès que c'était sur le travail, il y avait quelque chose qui bloquait. Ma créativité était à zéro, et j'ai vraiment reconnecté à quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'être que du faire. Et ça a été suffisamment violent dans le vécu pour que je le conscientise de manière très claire, et que je me dise, ok, là, en fait, je vais vraiment me lâcher la grappe. Et je vais ralentir sur le fer et prendre du temps pour moi. Et en fait, ça a été un cadeau du ciel ce moment, parce qu'à partir de là, j'ai commencé vraiment à ouvrir à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce qu'au-delà de la nutrition, j'ai toujours été attirée par le subtil, par l'énergétique, par la spiritualité, par le mysticisme, par la magie. En fait, de la vie, par tout ce qui est impalpable. J'ai toujours été très attirée par les vieilles traditions aussi qu'on peut retrouver dans le yoga, dans le taoïsme, avec toute cette philosophie de vie aussi, où la spiritualité, l'énergétique, le subtil fait partie intégrante de l'hygiène de vie, en fait, et de l'hygiène de soi, et de l'approche de la santé. Et c'est comme si en 2021, je me suis enfin autorisée en fait à aller découvrir tout ça, à aller creuser davantage en moi, même si ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du dev perso et que je consulte pour moi, parce que j'adore apprendre, comme je vous le disais, mais j'adore aussi apprendre sur moi, aller voir qui je suis, quels sont les personnages que j'ai enrôlés jusque-là, quelles sont les différentes facettes de moi. Sauf que à partir de 2021, il y a eu quelque chose d'un peu plus profond sur... Il y a des choses à déconstruire, il y a des masques à déconstruire, il y a des
masques de rigide, il y a des masques de contrôlant, de perfectionnisme. Je me suis vraiment enfermée dans cette croyance que pour parler de santé, de nutrition, il fallait être terre à terre, il fallait être pragmatique, que pour être professionnelle, il fallait être parfaite, il fallait avoir un beau setup, il fallait être bien préparée. Et en fait, au fur et à mesure que je déconstruisais tout ça, ben, il y a eu une balance qui a été pour moi un petit peu difficile, c'est-à-dire, ok, comment sur les réseaux sociaux et sur le podcast faire plus de place à cette spontanéité et à des sujets d'un tout autre, d'une toute autre sphère. Et encore, je parle de d'autres sphères, mais au fond de moi, c'est même pas d'autres sphères, c'est-à-dire que tout est corrélé et tout est en lien avec la santé holistique, c'est-à-dire que tous ces sujets qui me passionnent, que ce soit la spiritualité, que ce soit les sciences de l'âme, que ce soit le taoïsme, le chamanisme, le yoga, le pouvoir du son, des sons binauraux, les états modifiés de conscience, la médecine quantique, les neurosciences, la phytothérapie, les plantes sacrées, l'aromathérapie, bref, tous ces sujets pour moi, sont complètement corrélés parce que ce sont des médecines. D'ailleurs, sur Instagram, c'est ce que j'avais mis comme phrase l'an dernier en disant bah, « En fait, mon compte, c'est la médecine sous toutes ses formes. » Et en gros, je me suis vue, en fait, pendant des mois, me dire « Ok, par quoi je vais commencer pour aborder tout ça ?» Et bon, bah là, on y est. Et c'est ce qui va vous attendre aussi, tous ces sujets dont j'ai parlé. C'est vraiment des choses que j'ai à cœur de partager sur les réseaux et sur ce podcast. Parce que ça fait partie de ma vie. Mais vous voyez, par exemple, en 2017, quand j'ai lancé mon site internet, il s'appelait Nutrition Énergétique, parce que pour moi, la nutrition était un moyen royal de monter nos fréquences vibratoires et donc de se mettre naturellement dans un état propice à la guérison. Et c'était évident pour moi. Mais disons que jusqu'à présent, je le disais pas trop, c'était un peu en sous-marin, et je restais très très factuelle dans tout ce que je transmettais, et voilà. Mais disons qu'aujourd'hui, ben, je vous parle aussi de ce parcours, parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler de tout ce en quoi je crois, de tout ce que je vis au quotidien, et de ma vision vraiment holistique des choses. Et du coup, je rebondis, parce que j'ai eu une question aussi d'une personne qui me disait, mais comment t'es passée la nutrition à la vision holistique ? En fait, la vision holistique, elle a toujours été là. C'est juste que je commence seulement maintenant à m'autoriser à en parler davantage, si je résume. Donc, à présent, ce que je vais faire pour continuer cet épisode, c'est que je vais justement prendre les questions qui m'ont été posées. Ça va m'aider aussi à dérouler ce que j'ai envie de vous partager. Et puis, ça va me permettre aussi de vous répondre, parce que je sais que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à ça. Donc, la première question, c'est « As-tu eu des moments de transition professionnelle et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce saut ?» Et en fait, quand j'ai lu la question, la première chose qui est venue, c'est en gros, qu'est-ce qui m'a motivée à me lancer dans la naturopathie ? Dans la nutrition, dans ma formation en fait globale. Et déjà, en fait, au niveau de ma formation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me former par l'Ayurveda, parce que j'avais beaucoup appris de manière autodidacte sur l'Ayurveda. Et je me suis formée au Sri Lanka en 2014 au massage ayurvédique. Et c'est après mon voyage au Sri Lanka que je me suis posée en Suisse pour faire tout ce parcours dans la médecine académique, la nutrithérapie. J'ai fait une partie de la kinésiologie aussi, parce que tout ce qui était en lien avec le test musculaire et ce qui permet d'aller questionner le corps sur ces mots me passionnait. Hein. Et du coup, après, j'ai continué avec la naturopathie, plus particulièrement la réflexologie plantaire, qui pour moi a été un game changer dans ma pratique. Et j'ai vu la vision occidentale et orientale de la réflexologie. Et puis l'aromathérapie pour laquelle je me suis passionnée. Et d'ailleurs, sur le podcast, j'ai reçu Elsk Miles, qui était mon enseignante aussi bien en aroma que en réflexo. Donc ça, c'est pour le côté formation. Et donc, ce qui m'a amenée dans cette formation-là, en fait, ça a été avant tout une passion pour la santé holistique, ça c'est certain. Maintenant, j'ai quand même eu des petits coups de pouce de la vie. Je pense que le plus gros coup de pouce que j'ai eu, c'est quand j'étais en Italie. J'ai vécu à Rome en 2010 et 2011 et je faisais de l'apnée sportive. Et en fait, quand j'ai commencé à pratiquer en mer, où là, il fallait justement être en capacité de décompresser, c'est-à-dire que quand on fait de l'apnée, donc en piscine, tout va bien. Mais quand on est en mer, on fait face à la pression. Plus on descend, plus il y a de la pression. Et donc, ça peut faire extrêmement mal aux oreilles. Et donc, on va aller décompresser en pinçant le nez, en soufflant. Et j'étais incapable de le faire tellement j'étais pleine de mucus dans mes sinus. Et c'est mon prof d'apnée qui m'a dit « Écoute, fais un régime anti-mucus, donc tu m'enlèves le gluten, les produits laitiers, tu reviens dans 2 semaines. » Et 2 semaines après, j'avais perdu 4 kilos d'eau. C'était de l'inflammation liée à ces aliments-là, en fait, ce que ça générait chez moi. Je n'avais plus de rhinite allergique, je n'avais plus de mucus, et je suis passée de 4 mètres de profondeur à 18 mètres de profondeur, ce qui pour moi était énorme. Et surtout, à ce moment-là, je me suis dit « ok, il y a vraiment un truc avec l'alimentation. Je me souviens qu'à cette même époque, je me disais, en fait, j'avais arrêté la pilule contraceptive et j'avais vu qu'en l'arrêtant, j'avais mis 2 ans à retrouver un cycle normal, j'avais eu des grosses crises d'acné alors que j'en avais jamais fait de ma vie, mais en arrêtant la pilule, j'ai tout qui était complètement déréglé. Et j'ai vraiment mis, voilà, bien 2 ans à m'en remettre. Et je me suis dit, mais si un tout petit truc de cette taille-là peut avoir un impact aussi gros sur ma santé à aussi long terme, mais ce qu'on mange matin, midi et soir, voire parfois même plus pour ceux qui mangent plus de 3 repas par jour, ben ça doit avoir un impact énorme. Et donc j'étais dans une période de ma vie où j'étais à la fois déjà très intéressée par la nutrition et où en même temps je prenais conscience du potentiel en fait qu'on a, de tout ce qu'on peut transformer sur notre état de santé rien qu'avec l'alimentation. Et donc tout ça m'a amenée en fait à vraiment me lancer. Et puis l'autre chose qui m'est venue quand j'ai lu cette question, donc sur les moments de transition professionnelle, ben, c'est celui dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai lancé IG, où mon corps a débranché la prise, et où j'ai eu une espèce de crise de panique en me disant « Lisa, t'étais une warrior, tu bossais comme une malade, maintenant que t'as embauché une équipe, t'en fous plus une, t'as plus de créativité, t'es complètement incapable de tenir le rythme que t'avais avant, et je me sentais hyper mal par rapport à ça. » Et puis j'ai mis du temps en fait à retrouver mon rythme et à trouver ce nouvel équilibre en fait entre la chef d'entreprise complètement overbookée, la création de contenu, la création des formations, plus tout ce qui venait d'un appel du corps, du cœur et de l'âme d'aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pratiques. Et tout ça pour moi a été un game changer parce que il y a vraiment un truc que j'ai compris à ce moment-là, c'est la temporalité de l'esprit n'est pas celle de la matière. C'est-à-dire que je peux avoir 1000 idées en même temps, c'est pas parce que t'as l'idée qu'il faut absolument la réaliser tout de suite. C'est souvent l'ego en fait qui veut nous faire réaliser les choses immédiatement. Et en fait, une fois, j'ai une de mes thérapeutes qui me disait « Ce qui te donne de l'énergie, ce qui te permet de vraiment être dans la contribution juste de ce pourquoi t'es là, ça vient de l'âme, ça vient du cœur, s'aligner, fonce. » Mais à partir du moment où ça te prend de l'énergie, là c'est l'ego. Et c'est pas l'ego, parce que l'ego il a son rôle, il a son but, mais là c'est vraiment l'ego un peu mal placé en fait, qui veut prendre un peu toute la place, qui se croit le roi du monde, et qui est nourri par notre société où tout est basé sur la compétition, sur la comparaison. Et pour moi ça a été extrêmement aidant dans mon métier de me dire, quand ça me prend de l'énergie c'est mon ego. C'est mon ego qui se compare, et c'est mon ego qui a peur de pas être assez, et maintenant je le mets de côté. Donc quand je poste, c'est parce que j'en ai envie, parce que je sens que là, c'est plus fort que moi, parce qu'il y a un vrai élan à contribuer et je sais que ça va me donner de l'énergie. Donc ça, pour moi, ça a été un énorme game changer aussi dans ma profession. Après, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur comment vivre de mon activité de nutrithérapeute et combien de temps ça m'a pris pour en vivre. J'ai un parcours assez atypique, je pense, par rapport à la plupart des personnes qui se lancent dans le métier, donc de naturo, de nutrithérapeute, etc. C'est qu'en fait, dès que j'étais diplômée, j'ai tout de suite travaillé et j'étais à temps plein en cabinet et en tant que consultante. Et donc j'en ai tout de suite très bien vécu. Mais je pense que c'est parce que pendant 10 ans avant, c'est-à-dire que je me suis diplômée, j'ai commencé à avoir mon cabinet en 2017, mais depuis 2010, déjà, j'étais à fond dans la nutrition, j'apprenais beaucoup de choses. Donc d'abord, plus sur l'aspect assez très basico-basique de la nutrition, les bienfaits pour le corps, la diététique, etc. Puis après, en 2011, j'ai eu ce déclic avec l'apnée. Et de là, j'ai lu tout ce qui pouvait, tout ce qui était possible et inimaginable. Ce qui fait que quand je me suis formée, en fait, ça a été assez rapide pour moi. Ça a été plus une révision qu'autre chose, ma formation. Et ça m'a permis d'aller ajouter des petites choses en plus, mais au moment du diplôme, je me sentais ultra à l'aise avec mes connaissances, avec mes compétences. J'avais déjà expérimenté tout ce que je pouvais d'un point de vue nutritionnel dans ma vie. Donc ça a été très très simple. Vu que je travaillais déjà dans une société qui faisait des repas plutôt très sains, bio, etc. J'étais en relation avec des entreprises qui cherchaient des consultants dans ce domaine. Et puis quand ils ont su que je me diplômais, ça a été assez vite. Et puis le cabinet, ça a été... J'ai eu une personne, l'une des premières personnes que j'ai eues qui m'a apporté 15 autres personnes, elle toute seule. Et puis ça s'est fait très vite en fait. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment, quand on se lance dans ce genre de métier, avoir un petit coussin de sécurité et si besoin, garder un mi-temps, le temps d'être à l'aise. Parce que à mon sens, il est assez difficile d'être vraiment bon thérapeute et d'être pleinement avec la personne quand il y a un stress financier, quand il y a vraiment une peur de pas payer ses factures en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux faire progressivement si au début on n'a pas suffisamment de clients. Ensuite, j'ai une question sur comment est-ce que j'ai appris à former et à développer mes capacités de prise de parole en public. Eh bien, l'expérience. Vraiment, c'est l'expérience. Je me souviens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler comme consultante, il fallait que je présente mon projet à l'entreprise. Donc, en fait, l'idée, c'était de refaire une refonte complète de l'offre nutritionnelle que proposaient le supermarché et le restaurant de cette entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire ma présentation face à tous les PDG, CEO, etc. de cette société. Et j'avais mes petites feuilles, j'avais tout préparé. Et en fait, j'ai commencé à lire et là, je me suis dit... En fait, je me suis rendu compte qu'en lisant mes feuilles, je ne savais pas ce que je disais. J'étais tellement dans le stress et le fait de lire ce que je devais dire que je perdais le fil. En fait, si on m'avait enlevé ma feuille, j'aurais été incapable de dire ce que j'avais raconté. Et à ce moment-là, j'ai compris que moi, je fonctionnais pas comme ça. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse vraiment confiance à ce qui me venait et qu'il fallait que je parte sans filer, en fait. Donc, j'ai posé ma feuille et donc j'ai présenté le projet en disant, bah voilà, en parlant vraiment spontanément. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a formée, c'est-à-dire à force de faire des présentations, à force de faire l'exercice, de mettre derrière un podcast, derrière un micro, de faire des stories, de faire des lives. Bien sûr qu'on se reprend 1000 fois au départ, mais c'est comme ça en fait qu'on apprend. Après, honnêtement, on est tous capables, il suffit vraiment juste de s'entraîner. Et en fait, en se confrontant aux situations, ben, c'est comme ça qu'on s'améliore hein, tout simplement. Une autre question qui était de l'ordre de comment est-ce que j'ai fait à garder le cap pour me donner les moyens de réaliser mes rêves? Et bien sur cette question, je dirais que ce qui nous permet de garder le cap quoi qu'il arrive, c'est qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. Tout à l'heure, je parlais justement de cette différence qu'il y a entre ce que l'âme nous pousse à faire, ce qui vient du cœur en fait nous pousse à faire et ce qui vient de l'ego. Tout ce qui est de l'ordre de l'ego, parce qu'on veut se prouver à soi-même, parce qu'on veut prouver aux autres, parce qu'on veut prouver au monde, ça tient pas. Ça c'est certain, ça tient pas. Par contre, quand on fait les choses parce que quand l'idée nous vient et que le projet se dessine dans notre tête, on en a les larmes aux yeux, on a les frissons, ça, il n'y a rien qui nous arrête, quoi qu'il se passe en fait. Et on est même guidé et soutenu, mais d'une force, vous n'avez même pas idée, pour réaliser ce qu'on a à réaliser. Donc pour moi, j'ai pas eu besoin de garder le cap. J'ai pas eu besoin de me donner tous les moyens possibles. Oui, j'ai bossé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple pour IG1, c'était de me poser une deadline en fait en me disant ce sera le 3 mars. On était au mois de décembre et je me suis dit là maintenant, il faut que ce soit le 3 mars, il faut poser une date, il faut y aller, sinon je vais jamais le faire, sinon je vais toujours le procrastiner. Donc je pose une date et j'y vais et j'en parle à ma communauté, je prends cet engagement avec eux et le 3 mars, il y a cette formation qui sortira et c'est ça en fait qui m'a aidé à dépasser cette peur parce que ça veut pas dire que on sait qu'on est guidé et qu'on doit faire quelque chose parce que c'est plus fort que nous, que c'est facile. Parce qu'on va sortir de notre zone de confort, parce qu'on va être challengé, parce qu'on va devoir affronter des peurs. Mais comme je le disais, c'est souvent des missions qui nous dépassent et c'est ça qui nous donne le cran en fait de le faire. Donc, et en fait après ça, on sort tellement grandi que c'est super beau en fait. Que c'est super beau. Ensuite, quelles sont les formations qui t'ont le plus enrichi sur le plan pro et perso? Et ben franchement, j'ai envie de dire que c'est toutes les formations que j'ai suivies. Les livres que j'ai lus m'ont énormément, et vous les voyez un petit peu pour ceux qui sont sur la vidéo, vous voyez un quart de ma bibliothèque. Les livres m'ont beaucoup appris sur l'aspect purement santé, nutrition, etc. Mais après, au niveau des formations, alors ma formation réflexologie m'a beaucoup apporté. J'ai adoré faire ça, il y avait déjà cette approche subtile en fait dans le soin que j'aimais beaucoup. Et puis après c'est plus toutes les formations que j'ai faites plus récemment, j'ai envie de dire, et il y en a pas mal. Celle qui me vient là en tout dernier, c'est celle que je suis en train de faire en ce moment, qui est une formation en coaching akashique. L'akasha, c'est ce tout en fait qui nous entoure. En fait, dans les Védas, on dit que l'akasha, c'est ce qui constitue tout ce qui existe. Et de manière un peu plus habituelle, on va dire, et plus facile à comprendre, on a tendance à dire que l'akasha, c'est les bibliothèques des mémoires de l'âme. C'est-à-dire que notre âme, à travers toutes les vies qu'elle peut vivre, si bien sûr à condition qu'on adhère à cette croyance, à travers toutes les vies qu'on peut vivre, ben, l'âme a ses mémoires, et en fait on peut accéder à ses mémoires et à ce champ universel en fait, à ce champ informationnel à travers l'akasha. Et je suis stupéfaite par la puissance de cette pratique et par la qualité des informations qu'on peut recevoir très rapidement. Et ça me transforme complètement parce que depuis, je sens vraiment la différence au niveau vibratoire, au niveau de mes fréquences, au niveau de mes rêves, au niveau des messages que je reçois. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc je dirais que cette formation est vraiment pour moi un game changer, ça c'est clair. Et puis je dirais, il y en a deux autres aussi qui pop-up, c'est ma formation du Tao de la femme. En fait, quand j'ai fait ma formation en taoïsme, le Tao de la femme a été un game changer parce que pendant 2 semaines, j'ai appris à connecter à mon bassin. J'ai appris à connecter à ce qu'on appelle notre chaudron. Et ça a été une aide hors pair dans les soins que je propose aujourd'hui. Parce que tout part de l'énergie du bassin. En fait, on a tous en fait ce centre énergétique extrêmement puissant, ce premier dantian, dans lequel regorge énormément d'énergie. Et à travers les pratiques que j'ai pu implémenter dans mon quotidien, grâce à la formation du Tao de la femme, à travers les enseignements qui m'ont été transmis dans cette formation, j'ai compris en fait que les racines du taoïsme sont le chamanisme mystique. Et c'est pour moi quelque chose qui a été fondamental parce que je me suis dit, oh, c'est pour ça tout ce qui est en lien avec l'âme, avec le mysticisme, avec le chamanisme m'attire tant. C'est parce qu'il y a un lien dans tout ça en fait. Et pour juste vous expliquer, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à la science de l'âme, à la médecine de l'âme, en fait, on commence à s'intéresser au fait que l'âme, à travers les mémoires traumatiques qu'elle a pu vivre, elle s'est fragmentée. Parce qu'à un moment donné, dans une vie, dans d'autres, ça a été trop dur. Et donc, elle se fragmente. Et que ce soit à travers le chamanisme, ou à travers le taoïsme, ou même à travers l'akasha, on va faire ce travail de récupération de part de soi pour retrouver cette complétude. Et donc, retrouver toutes nos capacités, toute notre énergie, en fait. Et pour moi, en étudiant le chamanisme, en étudiant justement ce travail de récupération d'âme qui était pour moi propre au chamanisme, mais qu'en fait je retrouve dans ce que je peux faire avec l'akasha ou dans le taoïsme, il y avait un truc qui était ok, la boucle est bouclée et tout me mène au même endroit quoi. Et surtout, c'est pas tant tout me mène au même endroit, c'est surtout que toutes ces sciences ancestrales qui ont été transmises dans l'Ayurveda, dans les Védas, dans le taoïsme, dans la médecine chinoise, on retrouve toujours les mêmes fondements, que ce soit pour la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et ça, en fait, je trouve ça magnifique parce que j'ai l'impression que toute ma vie n'a fait que me guider vers tout ça, en fait. Voilà. En bref. En bref. Ensuite, une personne me demande quels sont les voyages qui m'ont permis d'évoluer le plus spirituellement. Alors oui, le Mexique a été un game changer parce qu'en fait j'ai vraiment pris le temps pour moi et du coup pour moi je dirais que c'est pas les voyages qui me permettent d'évoluer, ça a été le temps que je m'accorde à introspecter, à faire ce travail de où je porte le regard vers l'intérieur. Ma pratique matinale pour moi est tout aussi puissante que les voyages que j'ai pu faire et je dirais que les voyages, leur plus, c'est les rencontres qui nous permettent de faire. Parce que quand on voyage, on est d'office plus ouvert sur le monde extérieur, sur faire des nouvelles rencontres. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont aussi énormément apporté et qui ont contribué à ce chemin et à cette évolution spirituelle. Et il me reste deux questions. Donc tout d'abord, comment as-tu osé te lancer dans les immersions et à te sentir légitime ? Donc si jamais vous voulez plus d'informations déjà sur les immersions, je vous renvoie vers le site Pia Healings. C'est mon nouveau site sur lequel j'héberge les pages de présentation de ces immersions. Donc on a Santé Holistique, pour l'instant on a 2 éditions par an, et puis on a Nature Sacrée. Et c'est de loin la chose que j'adore le plus faire, parce qu'en fait je rencontre les gens en présentiel, et je ne suis jamais autant moi que dans ces immersions, en fait c'est vraiment l'apogée de ce que je vous partageais sur j'ai juste à être. En fait j'ai juste à être et les choses se passent. Donc bien sûr on a un programme quand même, il y a quand même un programme pour ces immersions, mais voilà, il y a quelque chose de puissant. Et qu'est-ce qui m'a amené à me sentir légitime ? Je pense qu'en fait, ça a été le travail que j'ai fait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et être en capacité de dire « Ok, là, l'ego, tu vas te calmer. Ok, les peurs du jugement, les peurs de pas être assez, compagnie, etc. » On va commencer à mettre ça de côté et on va essayer de sortir de l'intellect et du mental qui, jusque-là, était l'unique personnage que j'incarnais, en fait. C'est-à-dire que j'ai conscientisé que jusqu'à présent, en tout cas de manière publique, il y avait vraiment quelque chose qui était de manière complètement inconsciente. Attention, hein, quand je dis ça, c'est complètement inconscient à la base. J'ai appris à le mettre en lumière, qui est de l'ordre de « je vais être parfaite pour être irréprochable, pour que les gens aient confiance en moi, parce que c'est trop important ce que j'ai à leur transmettre et je sais que ça peut transformer leur santé, donc je vais être crédible. » J'ai envie de pas être critiquée aussi parce que ça me ferait trop mal. Mais du coup, on passe à côté de quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité, qui est de l'ordre de, ben en fait, je vais vous dire vraiment tout ce en quoi je crois, et puis tout ce que j'intègre depuis toujours, en fait, mais dont je parle pas forcément. Et il y a eu donc à la fois un dépouillement personnel, d'être en capacité de sortir d'un schéma qui m'enfermait dans l'intellect, dans le mental, en fait, j'avais tellement peur, en fait, de pas être à la hauteur. En fait, j'ai vraiment conscientisé dans ce chemin que j'avais tellement peur de pas être à la hauteur, d'être jugée, de pas être considérée comme suffisamment experte dans un domaine, que je me suis enfermée dans mes livres, dans l'intellect, dans le mental, pour m'assurer que ce que je transmets, c'est juste. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure de ce parcours plus personnel, j'ai réalisé que ça m'éloignait de mon intuition et de ma sagesse intérieure, de ce qui parfois... Vous savez, il y a toujours des choses qu'on sait au plus profond de nous, mais on ne sait pas d'où ça nous vient. Et ces derniers temps, en fait, c'est aussi à ça auquel j'ai reconnecté. Et quand je dis ça, c'est pas bout, tout d'un coup, on a la connaissance acquise, c'est inné, etc. C'est pas ça, c'est juste... Il y a des choses qu'on sait au plus profond de nous, et du coup, ça nous guide vers... J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie peut-être d'aller confirmer. Et l'intellect, les formations vont nourrir cette connaissance qui est là à la base, en fait. Et c'est toute la différence. Ça peut sembler très subtil, mais en réalité, c'est une différence majeure, en fait, dans l'approche des choses. Il y a eu donc à la fois un dépouillement personnel, d'être en capacité de se dire « Ah, ben jusque-là, j'ai enrôlé ce rôle-là, et en fait, on va le mettre un petit peu de côté. » Et il y a eu, du coup, cette connexion, en fait, à une part de moi beaucoup plus intuitive. À vraiment, c'est une énergie qui, pour moi, est beaucoup plus folle, sauvage, qui est... un volcan, voilà, c'est vraiment un volcan qui s'exprime à travers une créativité, à travers des soins, à travers des nouvelles choses en fait qui viennent, à travers des attraits pour certaines nouvelles activités. Et tout ça pour moi est corrélé à cette autre Lisa, on va croire que je suis schizo, mais à cette autre Lisa qui du coup est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sensitive, et où je suis plus du tout dans la tête, mais je suis vraiment dans mon ventre, en fait. Je suis vraiment dans mon cœur et dans mon ventre. Et tout ça m'a amené à développer des soins, des accompagnements complètement différents. Donc ça peut passer par des chants, ça peut passer par des soins énergétiques, ça passe beaucoup par le souffle. Pour moi, le souffle, ça me permet vraiment de transmuter l'énergie. Ça passe aussi par des plantes médecine, parfois. Bref, il y a tout un autre monde, en fait, qui s'est ouvert. Et donc, du coup, j'ai, en quelque sorte... appris à aimer ces paradoxes en fait chez moi. J'ai vraiment appris à marier cette Lisa très intellectuelle, très pragmatique, très terre à terre, très scientifique, et cette Lisa beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus imprévisible, j'ai envie de dire, mais parce que les deux ensemble me permettent d'avoir cette assise et d'avoir cette. À même pas me poser la question de la légitimité parce que c'est en fait. Et je pense qu'à un moment donné, on est vraiment poussé à cesser de nier ce qui ne peut être nié, c'est-à-dire soi. Et ce soi, ben, faut aller le découvrir, il vient pas comme ça en fait. Ça demande de sortir des conventions, d'être en capacité de se libérer de tout ce qu'on a enrôlé jusque-là et d'aller expérimenter des nouvelles choses. C'est vraiment s'autoriser en fait à être quelqu'un d'autre qui peut-être se rapproche davantage de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui nous permet de savoir si c'est juste ou pas, c'est notre ressenti. Moi, par exemple, quand je fais les immersions, quand je fais des soins, je sais qu'à ce moment-là, je suis juste au parfait moment, au parfait endroit, avec la parfaite personne avec moi. Ça se ressent, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment tout ça, en fait, tout ce travail. Et puis le fait d'être de plus en plus à la découverte de soi, mais en fait, on est ultra aidé, on rencontre les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons enseignants, les bons thérapeutes, les bons livres, les bonnes choses qui nous aident, en fait, à ne faire que confirmer qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a des choses comme ça qui remuent en vous aujourd'hui, j'espère que ce partage pourra vous aider. Et du coup, la dernière question, c'était comment as-tu su que c'était le moment de parler d'autre chose que de nutrition ? Bah écoutez, je l'ai su il y a 2 ans. je pense que je l'ai su il y a bien longtemps, mais il fallait que j'intègre. Il faut dire aussi que, bah, comme je vous le disais, je reste néanmoins toujours un chef d'une entreprise avec beaucoup d'élèves, avec beaucoup d'engagement, et parfois on ne peut pas tout faire. Et j'avais pas en fait l'espace nécessaire, je n'arrivais pas en tout cas à avoir plus d'espace dans mon agenda, dans ma vie, pour à la fois vivre tout ça, apprendre tout ça, intégrer tout ça, tout en ayant mes différentes casquettes, et en plus mettre des mots et le partager. Voilà. Donc je l'ai fait aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait, Et j'espère que du coup, ben, ce podcast répondra à beaucoup de questions que vous vous posez. Dans tous les cas, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce podcast parce que j'avais envie d'être vraiment honnête avec vous et de vous partager où j'en suis, ce que je vis, qui je suis en fait de manière plus globale. Et donc, ça annonce aussi d'autres sujets qui vont arriver. D'ailleurs, je vais vous parler du processus d'intégration, qui est un podcast que j'ai déjà enregistré il y a plusieurs semaines, en fait, à vrai dire. J'ai envie de vous parler de ça parce que pour moi, c'est important. Parfois, je pense qu'on s'autorise pas toujours. On a tous des rythmes différents, bien sûr, mais on s'autorise pas toujours à vraiment se laisser le temps d'intégrer les choses avant d'en parler. Je vais vous parler de ce qui m'aide, moi aussi, à intégrer davantage les expériences. Et puis, il y a plein d'autres sujets que je vous ai préparés, donc des sujets sur le souffle, sur le breathwork, sur les miroirs relationnels, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre de nous. Je vous ai préparé aussi un podcast sur l'alimentation quand on est enceinte, comment préparer aussi la grossesse, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur aussi. Donc il y a plein de sujets dans tous les domaines, toujours de la santé holistique, toujours avec cette approche de plus en plus large que je vais vous proposer dans les épisodes à venir. Donc bien sûr, restez bien connectés. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est de me rejoindre sur mon compte Lisa Salis Life parce que je vous partage beaucoup de conseils supplémentaires et j'aimerais bien aussi vous proposer plus de lives où cette fois-ci on pourrait échanger, c'est-à-dire que j'ai l'idée qu'après un podcast, on puisse faire un live pour rebondir sur des sujets que j'ai traités et du coup pouvoir répondre à vos questions en live. Donc c'est sur Instagram et c'est Lisa Salis Life et le lien est en descriptif de ce podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous comme toujours et je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie IGI, H-Y-G-I-E, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. À très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.